Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Radio Lab, radio locale d'intérêt général et pour cet été, radio à la nuit qui s'annonce. Bienvenue dans les balades du soir. Je suis Marie Kévin et nous sommes ensemble pour 40 minutes, pourvu que la route soit douce. Asseyons-nous près du Jabron et tendons l'oreille vers ceux et vers celles qui s'engagent sur le territoire. Quel bruit ça fait quand on remet en question, quand on débat, quand on veut faire entendre la nuance et la beauté parmi les cris tout autour. Comment résonne cet engagement pour ceux qui font, pour leur entourage et pour les autres? Ce soir, j'ai la chance d'échanger avec vous, Camille Audergon. Pour préparer cette émission, vous m'aviez confié, je ne pense pas avoir plus raison que d'autres personnes, pourtant j'ai des valeurs, j'ai des choses à combattre, mais ça, ce n'est pas possible en s'arrêtant de discuter. Alors Camille Audergon essaye de comprendre, de détricoter notre société pour mieux en saisir les motifs, et puis d'aller à la rencontre des autres, du territoire, pour ne pas laisser monter la peur qu'un jour, on ne se parle plus. Dans notre vie, dans votre vie, le soin des autres, le son et le dialogue se tressent à travers plusieurs chemins. Directrice artistique du Festival Éclat depuis 2017, Festival de la Voix, vous avez accepté de nous raconter ce soir comment vous avez trouvé la vôtre de voix. Camille Audergon, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, par votre enfance. Où est-ce que vous êtes née et dans quelle famille vous avez grandi ?
Alors, je suis née à Montélimar, à 30 km de Dieu. Et j'ai grandi dans une famille qui était ma maman est originaire d'ici depuis de nombreuses générations. J'ai grandi un petit peu moitié ici, moitié à Altan-des-Palus, donc c'est un peu la banlieue avignonnaise. Et puis quand j'ai eu 7 ans, mes parents sont revenus habiter tout le temps ici. Donc j'ai deux sœurs et une famille très, très famille, justement, des deux côtés. C'est un gros clan familial.
Un bon ancrage.
Voilà, ouais.
Que faisaient vos parents ?
Ma maman était aide-soignante et mon papa a travaillé en agronomie à l'INRAE.
Et est-ce qu'il y avait déjà dans votre foyer une valorisation de l'engagement ?
Oui. Mon papa, il a été maire et président de l'Interco sur le territoire. Et au-delà d'engagement politique, oui, j'ai une famille dans laquelle on a toujours eu le droit d'échanger, de débattre, de ne pas être d'accord. Ça parle haut, ça parle fort parfois, mais en attendant, justement, le débat d'idées, c'est quelque chose qui est important. Chez les miens, oui.
Votre père, Jean-Marc Audergon, était maire de Diolfi de 2001 à 2008, puis président, vous l'avez dit, de l'intercommunalité. Il a été engagé en politique durant une longue période à Diolfi. Comment est-ce que vous le viviez et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Alors, comment on le vit ? Pas forcément toujours très positivement, puisque beaucoup de gens font des amalgames entre la politique... de la politique politicienne et la vie privée des gens. Et sur des petites communes et à petite échelle, je pense que ça crée des grosses blessures et on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec des choses où en fait on ne laisse pas les espaces dans les bons espaces. C'est aussi... je pense qu'on a tous des manières... différentes de gérer ce genre de choses. Moi, je pense que tant qu'on reste dans une pensée démocratique, en tout cas, je pense que c'est un véritable engagement que de se présenter en politique à l'échelle locale sur des communes où il y a maximum 3200 habitants. En fait, c'est une énorme exposition à... énormément de problèmes et j'ai du respect pour c'est pas de la langue de bois, c'est vraiment j'ai du respect pour les gens qui ont le courage de s'engager dans la politique politicienne. C'est un courage que je n'aurais pas, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'intéresserait parce que j'y trouverais pas mon compte. Je trouve que ça crée beaucoup de tensions et de blessures et pourtant il faut avoir des gens qui gèrent la vie la vie publique et les collectivités territoriales. Donc voilà. C'est pas quelque chose. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a laissé dans ma famille des blessures réellement, je pense. Mais c'est pas grave, tu construis avec dans la vie.
adolescente, vous avez su très vite ce que vous vouliez faire plus tard, du son, et faire vivre la musique, sonoriser les spectacles, donner à entendre les voix des autres. Comment est-ce que vous avez rencontré cet univers de la fête, du spectacle, du son ?
Alors, j'ai su... Enfin, j'adorais la musique et en fait, petite, je me suis dit, oh, ça doit être super hein, de faire... de faire du son. Je suis partie en bac STI électronique et il s'est avéré que j'étais la seule fille dans une classe que de garçons et avec qui ça se passait globalement bien, mais j'avais un enseignant qui était très 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 misogyne et que j'avais 10 heures par semaine en seconde et 14 heures en première et 14 heures en terminale. Et là je me suis dit, oh là là, tu vas pas faire ça toute ta vie, d'être confrontée à... C'est là aussi, pareil, c'est des luttes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui se sont... tous les combats ne sont pas gagnés, mais il y a certaines choses qui ne seraient plus acceptables. En revanche, je me suis dit, quand t'as 18 ans, tu te dis, ah non, en fait, je vais pas me battre toute la vie. Donc j'ai dit, je vais faire du bénévolat, je vais aller apprendre... Dans des festivals, etc. Et donc, du coup, je travaillais aussi à l'office de tourisme à Dieulpy. Et puis, il y avait ce festival, Éclat, qui cherchait des bénévoles, tout ça. Et en fait, dès le départ, je suis allée m'intéresser à ce que c'était, comment ça marchait. Et puis, j'ai rencontré des amis, mon ex-mari, une famille, une autre famille. Et j'ai appris beaucoup. Voilà. Et puis, je me suis retrouvée à être bénévole de festival en festival et j'ai appris mon métier de sonorisatrice comme ça.
Sur le tas.
Ouais.
Après une formation quand même. Et justement, après cette formation, ce bac technologique, technique ou technologique ?
Technique.
Technique. Eh ben, vous n'allez pas continuer à vous professionnaliser dans le son. Vous allez choisir une autre voie. Vous allez commencer la fac de droit.
Oui, mais ça c'est pareil, ça ne marchait pas. Du coup, je me suis dit... je vais paraître très instable dans cette interview. Non, mais je pense que j'avais un besoin de réparation, justement, de toutes ces choses que j'avais trouvées injustes. Du coup, je suis rentrée en fac de droit et en fait, j'ai trouvé ça encore plus injuste que ce que j'avais vécu avant. Donc, j'ai passé mon petit doc de droit, puis j'ai arrêté. Et là, c'est posé quand même vraiment la question de savoir ce que j'allais faire, puisque rien ne me satisfaisait vraiment. Et je travaillais à l'office de tourisme, du coup. Et j'ai passé les concours infirmiers, parce que je m'intéressais quand même vraiment à la question du vivre ensemble, des autres, du soin. Ça m'a toujours... Et donc, du coup, je suis devenue infirmière.
Et pendant combien de temps vous avez exercé ?
J'ai exercé pendant une dizaine d'années, mais j'ai fait 8 ans en greffe de moelle.
Ok.
De semi-myélome lymphome, voilà.
Donc c'est aussi un engagement qui est important, dans le sens où c'est un métier qui est aussi dur. Et je me demandais, qu'est-ce que ça t'avait apporté ? Parce qu'il y a des métiers dont l'utilité sociale saute plus rapidement aux yeux que d'autres et qui sont pourtant sous tension. Tu l'as vécu comme une forme d'engagement, ce métier d'infirmière ?
Oui, d'engagement. Oui, mais ça m'a apporté beaucoup et je dis pas que c'est pas un métier que je referai. Enfin, tu vois, j'ai été mobilisée sur la réserve pendant le Covid. Je continue à faire beaucoup d'actions de médiation dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et en fait, je crois qu'il y a des choses qui sont difficiles à dissocier et qui, justement, sont importantes pour faire société. Culture, éducation, santé, pour moi, c'est des piliers. Je comprends même pas que ce soit pas dans les fonctions régaliennes de l'État.
Ça, c'est dit. tu nous as raconté comment vous aviez croisé la route du festival Éclat. Est-ce que vous voulez nous dire un premier mot, justement, de ce festival historique à Dieulpy ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on y entend ?
Eh bien, on y entend de la diversité à Éclat. Surtout, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est un festival où on essaie de proposer des rencontres avec différents objets. Donc, on fait venir du théâtre, on fait venir de la musique, mais des musiques très différentes. On passe du lyrique en faisant de la folk et aussi en faisant venir des... des percussionnistes qui font de la lutherie sauvage avec avec des déchets et après ben on y fait aussi beaucoup de production et là on crée des propositions qui sont en lien avec ce qu'on imagine être intéressant sur le territoire. Là par exemple on a fait des balades comptées avec deux artistes photographes qui étaient partis à Liche et qui avaient travaillé sur la thématique des contes de fées, notamment Hansel et Gretel, et on a fabriqué deux promenades en itinérance, une vraiment autour d'Hansel et Gretel avec création, enfin on a réécrit Hansel et Gretel, et on a fabriqué un Laporello et un livre audio.
C'est
avec
quoi un Laporello?
Un Laporello, c'est un livre accordéon.
Ok.
Parce que c'est un accordéoniste chanteur et une chanteuse qui font la balade à la Roche Saint-Secret avec Anna Puy-Grosado, qui est une photographe du coin. On a travaillé avec la Roche des Arts et avec la caravane des artistes correspondants sur ce projet. Et on a fait la même chose avec une autre artiste qui s'appelle Karine Dilté, et qui elle, est revenue avec un univers photographique beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus... C'est vraiment des personnalités très très différentes. Et là, on est allé chercher dans plutôt les métaphores des contes de fées, qu'est-ce qui se cache derrière l'image, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Et en fait, on fait cette balade au domaine des sources le samedi après-midi avec un comédien qui va lire des textes qu'on a choisis. Mais tu vois, là, on va faire Les Jardins de Colette et L'Enfer de Dante, par exemple, avec un violoncelliste. C'est pas du tout les mêmes. Mais c'est chouette de voir qu'avec un point de départ, justement, tu vois, c'est ça la considération de l'altérité, c'est qu'on a deux photographes qui partent avec, en gros, la même consigne, sur le même territoire, et on revient avec deux propositions qui sont mais tellement différentes, parce qu'on a convoqué des humains très différents, et qu'en fait, leurs propositions sur... Elles sont à leur image et elles sont empreintes de ce qu'ils sont. Et on fait beaucoup ça avec là, des productions de territoire.
Ben on va continuer à parler territoire et humain et création avec vous, Camille Dergon. Avant ça, je vous ai demandé de venir avec un élément sonore pour qu'on l'écoute ensemble et vous avez choisi ça.
Le chemin de mon école, j'avais complètement oublié, puis voilà tout d'un coup.
Ça réapparaît.
Il devient plus net. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est pas un souvenir très, très superbe. Je me souviens, je descendais de chez moi jusqu'à un carrefour. Là, on avait le chemin qui allait à l'école. Et là, il y avait une porte toujours fermée. Et on savait que c'était un monsieur qui était sourd d'oreille qui habitait là. Alors nous, on passait notre temps à taper sur la porte jusqu'à ce qu'il entende malgré tout et qu'il sorte avec son chien. Et c'est ce souvenir-là qui est ressorti, le monsieur. Le nom n'est pas revenu par contre, mais le monsieur avec son chien qui sortait parce que nous tapions sur sa porte pour l'embêter.
Nous, petits Parisiens, c'était les sonnettes. En montant de l'école...
Camille Dergon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient d'entendre?
On est d'entendre un fragment de Coin de rue. C'est un projet qu'on a commencé il y a... Ça fait longtemps que ça germe dans ma tête. Mais c'est un projet qu'on a commencé en septembre, vraiment en septembre dernier, pendant le festival, avec les résidents des Échiroux, les résidents de l'hôpital local et une classe l'année dernière de 4e B. C'est né à la base d'une discussion justement en famille autour de tous les ans on fait un jeu dans les vitrines à Éclat, parce que je trouve que c'est chouette le jeu des commerçants et ça permet que le festival soit aussi un peu dans la ville et tout. Et ma maman me dit « Ah mais quand même, ce qui serait cool, ce serait de chercher qu'est-ce qu'il y avait dans ces boutiques avant. » Donc l'année dernière, on part avec une petite équipe en se disant « On va faire qu'est-ce qu'il y avait ici avant ?» Et on pensait que ça intéresserait une quinzaine, vingtaine de personnes. Sauf qu'en fait, tous les commerçants chez qui on passait, ils disaient « Ah non, mais en fait, là, avant, il y avait ça. » Ils posaient des questions. Et puis, en fait, je me suis fait dépasser par ce projet. Mais vraiment, tant et si bien que pour la première fois, on n'a pas eu de jeu des commerçants l'année dernière dans les vitrines. Parce qu'en fait, j'avais récolté beaucoup trop d'informations et pas réussi à en faire quelque chose. Donc, je me suis quand même dit, cette histoire de mémoire liée à des espaces, elle est hyper importante. Et parallèlement à ça, j'avais déjà réfléchi à monter Coin de rue avec Sylvain Fontimpe. Et avec ces échanges intergénérationnels. Donc, on est arrivé dans les hôpitaux avec la chanson Coin de rue de Charles Trenet. Tout ça, ça a été enregistré, hein, tout ce que je vais vous expliquer au cours de l'année. Et en fait, on a posé la chanson sur la table et dès que ça a été terminé, les gens ils ont déroulé des souvenirs, mais vraiment. Ménilmontant, telle année, le chemin de mon école. Et ce fragment que vous venez d'écouter, c'est le souvenir d'une dame de l'hôpital local qui, pendant toute cette première séance d'échange de souvenirs, elle avait du mal à recentrer ses souvenirs et tout. Et puis, au fur et à mesure, ça a repris sa place et un ordre dans le temps, dans l'espace, etc. Et à la fin de la séance, elle a livré ça. Et elle a livré ce témoignage, qui est le premier avec lequel nous sommes allés au collège, et qui est tellement intemporel, c'est-à-dire que toquer aux portes, les gens qui font peur, ce qu'il y a derrière les portes et les sonnettes, il n'y a pas d'âge. Et on a travaillé donc avec tous ces protagonistes là sur toute l'année, sur des ateliers plastiques, sur de la photographie, sur de l'écriture, sur des échanges, sur des questions. On a fait se rencontrer les gens sur des croquis. Et là, la semaine du festival, en fait, on a confié tous ces éléments sonores à des comédiens qui ont fait une petite forme spectaculaire qu'on présentera aux élèves. Et aux anciens pendant la semaine du festival. Et on a fabriqué des objets, un objet qui s'appelle « Vos souvenirs au bout du fil », où donc tous ces petits fragments qu'on a enregistrés sur ces ateliers, et bien on les a mis dedans. Et donc, aléatoirement, quand on décrochera ce téléphone en bakélite, on aura le souvenir soit d'un ancien, soit d'un enfant. Et on a ce jeu des commerçants qui, du coup, cette année prend vie et qui va de boutique en boutique et qui revient vers ce qu'on a appelé la boutique des souvenirs, où là, vous, par exemple, n'importe qui, n'importe quel citoyen de Dulphy, va pouvoir aller participer à une grande carte mémorielle. Et donc, vous y allez, vous allez au Voco ou Vidéomaton, enregistrez votre souvenir et ensuite vous placez votre souvenir avec un numéro sur une carte virtuelle. Ça donnera... c'est le pendant, en fait, de ce qu'on a fait sur cette année. On a travaillé sur des objets de BO, des souvenirs. On est allé interroger les gens sur les musiques qui avaient marqué la vie de leurs parents, de leurs grands-parents. On a travaillé avec les soignants. On a travaillé autour du souvenir des livres, etc. Enfin, voilà. Et avec les enfants, on a travaillé à la rédaction de lettres à destination des anciens. On est allé lire ces lettres et on leur a fait écouter les réactions des anciens par rapport à leurs souvenirs, etc.
C'est tisser plein de liens,
ouais.
Entre les personnes, entre les générations, entre les différents territoires. Et... c'est important d'en conserver aussi une matérialité, dans le sens où c'est beaucoup d'échanges et c'est ça qui contribue au lien. Et après, c'est là où peut-être l'engagement, j'y reviens, mais prend une autre dimension, c'est de dire je vais le partager, je vais en faire quelque chose pour les autres, et parce que c'est des objets, vous le disiez très bien, auxquels tout le monde peut s'identifier. Et c'est ça qui sert à faire... faire perdurer ce lien un peu, à étendre.
Je crois qu'il y a dans les espaces... C'est peut-être bête, hein, mais je crois qu'il y a des choses qui fatalement nous rassemblent. Là, par exemple, la finalité aussi, c'est on va fabriquer un mur des souvenirs. Donc toute la semaine pendant le festival, on peut venir fabriquer son pochoir. c'est un pochoir qui pourrait être testé sur un meuble qu'on remettra dans la boutique du souvenir tous les jours. Et on a trois artistes qui fabriquent une fresque qui sera Viol du pêcheur. Et c'est une fresque sur laquelle on a fait une commande de matérialisation du beffroi, de lavande, de poterie. Et dessus, il y a marqué « L'outampas au passo Louben ». L'idée, c'est que, par exemple, si vous, vous fabriquez un pochoir, eh ben, vous pouvez, un pochoir qui est en lien avec un souvenir lié à un lieu, eh ben, vous pouvez venir le dimanche taguer votre fragment de la mémoire collective dans ce lettrage. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un morceau de chacun dans ce lettrage avec cet objet qui va chercher juste quelque chose qu'on reconnaît tous, enfin, et en tout cas qu'on accepte tous comme étant un objet du patrimoine commun. Je sais pas si je suis claire quand je parle.
Et ça, ces objets-là, justement, il va perturber, il va faire partie de la ville, parce que le Viol des pêcheurs, c'est une petite rue dans le centre de Diolfi, qui est empruntée. Donc les gens qui connaissent ou pas le projet seront interpellés, pourront s'identifier. C'est quelque chose qui est... Voilà. Partagé au plus grand nombre, en tout cas à tous ceux qui se promènent dans cette rue. Et que là, c'est un outil puissant de médiation culturelle, et notamment entre le public, les habitants et le territoire. Donc vous êtes issu, vous l'avez dit, d'une famille qui est installée à Diolfi depuis des générations. Cette dimension du territoire, elle est très importante. Est-ce que je me rends pas compte à quel point... Est-ce que tous les projets sont en lien avec le territoire ou est-ce qu'il y a des projets qui ne sont pas forcément reliés à Diolfi ?
Dans Éclat ?
Dans Éclat.
Ah oui, oui, oui. Après, c'est un peu... Moi, j'y accorde beaucoup d'importance parce qu'en fait, je pense que... Que tout est relié, mais oui, il y a des choses, par exemple, quand on fait venir les Fils Monkeys, c'est pas un projet de territoire, c'est par contre quelque chose qu'on a envie de proposer sur un territoire. Mmh. Mais oui, enfin, je pense que en fait, c'est un peu dans l'ADN de ce festival que de dire en fait, on aimerait vraiment que pouvoir ouvrir les portes à toutes et tous.
Mmh. Et ça veut dire que c'est répondre aussi à des répondre à des besoins sur le territoire. C'est pas forcément parler du territoire pour parler du territoire, mais c'est aussi répondre à des besoins ou des interrogations que vous avez ou vous savez ou vous pensez qu'elles sont partagées par des personnes du territoire et de venir répondre à ces interrogations.
Mais tout n'est pas partagé. En tout cas, je pense que c'est les interrogations qu'on se pose en collectif. Mais je sais pas si c'est enfin si c'est de bon aloi. En tout cas, oui. Plusieurs fois on se l'est dit, mais moi je trouve que j'ai du mal avec le fait qu'aujourd'hui les choses soient si polarisées qu'en fait on ne se dise pas bonjour sur un même trottoir. En fait, ça me chagrine et je crois que les vecteurs culturels ils sont essentiels justement à ce genre de choses. Là, on a décidé d'organiser des causeries. C'est une nouveauté dans le festival. Et l'idée, c'était de dire, en fait, la culture, ça semble être un tel ensemble complexe pour tout le monde. Et c'est un truc tellement difficile à détricoter que plein de gens, déjà, ne se sentent pas légitimes si on parle de culture. D'autres vont se sentir, si on parle d'animation, ne viendront pas parce que, justement, il ne s'agit pas de culture. Tu vois, il y a tellement d'apparats, de choses qui sont des codes peut-être un petit peu trop anciens et à casser aujourd'hui. L'idée de ces causeries, c'était de dire on va prendre ces mots très compliqués, on va en choisir 5 qu'on confie à Vincent Roca, qui est chroniqueur et dont le métier est de jouer avec les mots. Donc déjà on démystifie le truc parce que synergie, du coup c'est un mot compliqué, mais quand ça va passer dans ses mains, c'est abordable pour toutes et tous. Ensuite, on convoque une personne qui a une expertise dans la culture en rapport avec ce mot. Et ensuite, tout le monde peut venir pour échanger. On a fait une grosse métaphore autour de la cuisine, mais c'est pas par hasard. C'est qu'en fait, ce qui est choisi, c'est de dire que chacun, dans une recette de cuisine, peu importe d'où tu viens, mais tu sais, il y a les recettes de ta maison. Chez moi, par exemple, on va mettre du basilic et de l'huile d'olive partout, ce qui est le cas dans beaucoup de maisons ici. Mais t'as des gens, ils vont rajouter du beurre et de la crème, d'autres qui vont rajouter de la coriandre. Et en fait, c'est pas bien ou mal, c'est notre manière de faire. Bah là, ce qu'on propose à chacun, c'est de venir avec son ingrédient et avec ses questions, ses projections pour cuisiner ensemble, en fait. Peut-être qu'on trouvera rien, peut-être qu'on trouvera un truc génial. Peut-être que juste on aura cassé des imaginaires et peut-être qu'on aura construit des solutions de faire ensemble, en tout cas pour ce petit territoire, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de créer de la rencontre et de réamorcer du lien à des endroits où c'est compliqué, quoi.
Qu'est-ce que ça vous apporte à titre individuel d'être directrice du Festival Éclat?
Et ben des jolies rencontres et beaucoup de choses sur alors ça m'apporte des choses très positives et aussi beaucoup de questionnements, parce que travailler le collectif, c'est une véritable difficulté. C'est pour ça que quand on change d'échelle, tu vois. Et que là, c'est une toute petite structure, on n'est pas nombreux, on n'a que des gens qui poussent dans le même sens, avec la même volonté, c'est-à-dire qu'en fait, y a une volonté de faire ensemble autour d'un projet culturel. Donc déjà, on part tous avec des cartes. Normalement, tu te dis, ça doit être facile. Et bien en fait, même avec tout qui va bien, tu te dis, et bien en fait, on rencontre des limites de personnes, de propos, de positionnement de chacun, et puis les temporalités sont pas les mêmes pour tout le monde, et puis on vient pas tous des mêmes endroits, donc on n'a pas la même manière de considérer les choses. Et faire collectif, en fait, même à un endroit où tu imagines que c'est c'est facile, c'est compliqué. Donc ça m'apporte beaucoup de questionnements sur comment on est humain avec des humains, et j'interroge souvent, tu vois, la question de la nécessité et des violences que je vais apporter en voulant absolument porter quelque chose jusque-là. C'est ces questions-là, et te dire en fait, y a des moments où... où ben justement, la posture de direction, c'est une posture où je me trouve à un endroit que j'aurais pas imaginé, où j'aurais pas imaginé me trouver. Je sais pas si c'est clair, mais...
Si, mais justement, je voulais vous poser la question de ce collectif, en fait. Le collectif, le groupe, ça prend une place importante dans le récit que vous faites. Est-ce que vos engagements, ils ont besoin de cette dimension pour, un, se nourrir, et deux, trouver un accomplissement?
Ah mais complètement. Toutes les thématiques du festival quasiment, parce qu'en fait on travaille, comme il y a beaucoup de pluralité, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, l'idée c'est qu'on trouve, à se compléter dans l'altérité, et que tout ça c'est beaucoup de richesse, mais pour que ce soit pas un immense bazar, parce que quand tu convoques... des batteurs avec des gens qui vont lire l'enfer de Dante, et d'autres qui vont faire de l'itinérance. Il faut quand même qu'on ait un fil à tirer pour savoir où on est, et se dire en fait on est quand même à un endroit où on parle un langage commun. Et les thématiques du festival, en général, je les propose en mobilisant des problèmes qu'on a pu rencontrer. Tu vois, l'année dernière se posait la question de la billetterie solidaire, de comment on est spectateur, parce que pour des raisons de société, hein, la billetterie solidaire fonctionne avec plus de ventes de places solidaires, beaucoup plus, et c'est bien parce que ça veut dire que les gens ont compris qu'on pouvait venir, mais on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de places à 5 euros. Et en fait, ça met un petit peu l'avenir du moins de la billetterie sous cette forme-là en péril. Donc certains disaient « Ouais, il faut qu'on arrête la billetterie, merci. » Moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'en fait, je pense que c'est important qu'on puisse proposer un accès minimum plancher. Mais par contre, il faut qu'on se responsabilise tous en tant que spectateurs, acteurs aussi de sa consommation culturelle. C'est aussi comprendre, et c'est pour ça qu'on a fait les causeries, c'est comprendre quels sont les enjeux de la culture de demain. Si on ne veut pas avoir une culture juste issue d'une production mainstream et qu'on veut continuer à avoir un petit peu des projets chaussés à dimension territoriale, il faut qu'on s'engage, si on le peut bien sûr. Mais par contre, ça existe et c'est fait pour que ce soit utilisé.
Et donc ça se transforme en thématique pour le festival.
Ouais, ça se transforme. On convoque Barbara Stiegler et Christophe Pébart sur la question de la démocratie et on fait un spectacle où le spectateur devient acteur et on le fait à plein d'endroits. On propose des stages d'initiation où les gens peuvent venir dans les spectacles. On en a 4 comme ça. On propose tout un tas de choses qui tuilent les unes avec les autres où, aujourd'hui, on propose aux spectateurs de prendre part à la construction culturelle. Et dans les causeries, c'est vraiment aussi de ça qu'il s'agit. Sur la causerie du samedi, par exemple, on va travailler sur la semaine complète avec Moms et Merveilles. Avec les enfants sur un livre dont ils sont le héros et leur demander à eux qu'est-ce qu'ils attendent en fait de la culture, du spectacle vivant, de la musique pour eux, pour il y a plein de choses comme ça où si on n'échange pas avec les gens, on peut pas faire un festival qui tienne la route. L'idée c'est de savoir quelles sont les attentes des gens. Je sais pas si c'est clair encore une fois.
C'est quel sentiment qui est à la source de vos engagements ?
Il y en a plein. C'est pareil, les sentiments, ils sont souvent liés les uns aux autres. Après, il y a beaucoup de joie. Et parce que je pense que la joie, c'est la solution à tous nos problèmes. Et que quand on rencontre un problème, rire, parler, discuter avec joie et se dire en fait comment on va là, parce que enfin franchement pas se mentir, en ce moment c'est pas fou, regardez le monde qui brûle de tous les côtés, qui part un petit peu à volo. Si on met pas un petit peu de joie dans la manière de discuter et d'aborder les choses, en fait on les contourne. Donc voilà, moi je crois que il y a des petites choses qui peuvent faire que on se rencontre, et que quand on rencontre son différent ou son opposé, on se dit que tout est pas mal chez des gens qui pensent pas comme nous. Je crois à ça vraiment en fait. Je crois à l'empathie. C'est, je sais que c'est nounouillant de dire des trucs comme ça, mais je crois vraiment ça. je crois en l'autre.
On écoute tout de suite Résident de la République d'Alain Bachung sur Radio La.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. entendu. Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas, pas, pas. Je sais pas, 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 je sais pas, pas.
C'est vous qui avez choisi cette chanson, Camille Dergon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en un mot?
En un mot, c'est compliqué. Après, il faut écouter les paroles. C'est une chanson de Bachung qui était sur l'album Bleu Pétrole. Alors, j'ai choisi cette chanson parce que je suis fan de Bachung depuis. Et celle-ci parce que je trouve que plus que jamais aujourd'hui, elle fait sens en fait, dans un monde où justement tout se polarise, où les gens ne se parlent plus, où il y a une grosse désillusion du monde démocratique, de la République, etc. C'est, il le dit, hein, dans un monde où le rose a des reflets bleus, où est-ce qu'on va? Et ben, c'est les questions que je me pose. Comment on continue à être résidente de la République ensemble? C'est pour ça que j'ai choisi ça.
C'est déjà le moment de se quitter. Mais avant, dernière question. Je vous la laisse là et vous y répondez comme vous voulez. Camille Dergon, qu'est-ce que vous souhaitez laisser au monde?
Alors ça,
ça peut être un tout petit truc.
Je pense pas avoir le pouvoir de laisser grand chose au monde, mais si je pouvais lui laisser beaucoup d'amour, je le ferais.
Un grand merci, Camille Dergon. Et merci aussi à Lotaro, qui était à la technique
merci
ce soir.
Merci à vous deux.
Merci aux auditeurs, aux éditrices d'avoir partagé un bout de ce chemin. C'était Marie Kévin et les balades du soir. Tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur le site de Radiola, radio associative locale du pays de Diolfi-Bourdeaux, qui parle d'ici, mais qui va bien au-delà. À très vite, portez-vous bien.